Pour notre méditation de ce dimanche, nous allons lire le texte dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, les versets 1 à 5 et les versets 9 à 11. Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 5 et 9 à 11. Au nom de Jésus. Réconfortez mon peuple, ne tardez pas, dit votre Dieu. Rassurez Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car elle a reçu du Seigneur le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert, œuvrez le Seigneur. Œuvrez le chemin au Seigneur dans cet espace aride. Frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va paraître et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Versets 9 à 11. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras, portant les agneaux contre lui et ménageant les brebis qui allaitent des petits. Amen. Ici, dans notre version du français courant, la traduction a éliminé la répétition « réconforter mon peuple ». Dans d'autres versions, il est dit « consoler, consoler mon peuple ». Je trouve dommage que la version français courant a omis cette répétition qui est pourtant très importante. Il existait, je ne sais pas si elle existe toujours, une émission que j'aimais vraiment sur les ondes de la RFI Radio France Internationale, qui s'intitulait « La danse des mots ». Le présentateur, l'animateur, avait vraiment une capacité de faire danser les mots, comme on dit. Avec un simple mot, l'animateur radio pouvait jouer avec. Et il a dit « si on ne fait pas attention dans l'usage d'un mot, nous pourrions amoindrir sa valeur ou changer carrément son sens. » Par exemple, il disait, si tu dis « je t'aime » à une personne que tu apprécies et que tu rajoutes un « beaucoup » par la suite, le résultat apporte une autre orientation, plutôt amicale qu'amoureuse. Or, dans la tête de l'individu, il voulait vraiment déclarer sa flamme en ajoutant le beaucoup, au lieu de mettre plus d'accent, il l'amoindrit. Et pourtant, celui qui apprend le français et qui penserait renforcer l'annonce de sa flamme vis-à-vis d'une personne en ajoutant ce beaucoup, va rendre à l'erreur la personne qui espère déclarer son amour. En espérant une déclaration d'amour, il obtiendra en retour une simple amitié. Et c'est ce jeu de nuances-là qui est plus important, je trouve, dans l'analyse de ce texte. Il en est de même ici dans notre texte, dès le verset 1, la répétition du verbe « consoler » est assez remarquable. Donc, si vous avez une autre version de votre Bible dans vos mains, regardez, c'est mieux de prendre la version « consoler » consoler mon peuple, dit l'Éternel. Et ce n'est pas du tout une erreur de la part du copiste de répéter deux fois, mais c'est bien voulu. Cette façon de faire n'est pas un cas isolé dans tout l'Ancien Testament, à l'exemple de la mise en garde de Dieu, rappelez-vous, dans le Jardin d'Éden, contre le couple. Lorsque Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, littéralement, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez et mourrez. » Or, la traduction qui a été faite, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Mais dans la version originale, « Vous mourrez et mourrez. » Donc, grammaticalement, c'est vrai que ça ne va pas, mais il y a une signification. C'est comme s'il disait « Vous mourrez deux fois ». Donc, comme je l'ai dit, grammaticalement, ce n'est pas bon, mais sémantiquement parlant, cette répétition devait être mise en avant pour accentuer une mort certaine. De ce fait, si nous prenons le cas de notre texte aujourd'hui, « Consolez, consolez mon peuple », si le messager utilise ce style littéraire, c'est parce qu'il faut une bonne dose de consolation. Il ne suffit pas de dire « consolez-le », mais insister, « consolez, consolez mon peuple ». Cette consolation doit être assez forte, parce que la tristesse et le désespoir sont assez prenants. Et pour en savoir encore un peu plus, au verset 2, suivant, le verset 2 parle encore d'une notion de double. Rassurez Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car elle a reçu du Seigneur le prix complet de toutes ses fautes. Et là encore, malheureusement, la version française courante a omis le mot double. Il est bien écrit dans le texte hébreu, car elle a reçu le double de toutes ses fautes. Ici, il dit simplement le prix complet. C'est pas clair. Donc, il parle encore de notion de double. Parle au cœur de Jérusalem. Criez-le lui que son combat est terminé, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Et voilà, le terme double revient en accord avec la consolation qui revient deux fois en haut. Donc, pourquoi alors ce double? Que signifierait ce double? Nous allons essayer de trouver la réponse toujours dans le verset 2 où il est dit « Elle, c'est-à-dire Jérusalem, elle s'est acquittée de sa faute. » Ensuite, plus loin, il dit « Son combat est terminé. » Donc, reliant ces deux choses, tout d'abord « acquitté » et « combat terminé ».« Acquitté », c'est quelqu'un qui a remboursé ses dettes. Et si on se pose la question, une dette envers qui? La réponse se trouve dans la phrase suivante, « Son combat est terminé ». Et là encore, il faut aller piocher dans le sens littéral du texte. « Criez-lui que son combat est terminé », c'est-à-dire, c'est l'annonce officielle qu'on fait aux soldats qui ont terminé avec succès leur service militaire. Quand il dit « son combat est terminé », il a purgé son service militaire. Vous avez rempli les jours requis pour votre service militaire. Et là, il y a encore une notion de plein en lien avec la répétition deux fois. Quel est le lien entre acquittement des fautes et service militaire? Dans le texte, arrivé jusqu'au bout, c'est comme si le messager voulait dire que pour que la consolation soit effective, Le peuple d'Israël doit aller jusqu'au bout de sa peine. Et que le temps de Dieu lui avait imposé comme peine est nécessaire. Il ne faut pas l'éviter, cette peine. Cette peine, elle est utile. Cette peine est utile pour sa purification. Rappelons-nous de la traversée du désert. Dieu avait dit qu'il fallait exterminer les générations qui étaient nées en Égypte. Et seule la génération née dans le désert qui pouvait entrer dans la terre promise. Il était nécessaire de tourner dans le désert pour purifier le peuple afin d'être prêt à recevoir la terre promise. Vous venez d'entendre tout à l'heure parmi les lectures qu'il y aura une destruction. Il faut passer par la destruction du monde avant d'entrer dans la terre promise. Là où je veux en venir, chers amis, le temps de la consolation arrive et le compte à rebours est déclenché. Personne ne peut l'arrêter, ce compte à rebours. Le temps de notre consolation doit aussi passer par ces moments de tribulation que nous vivons aujourd'hui. C'est un passage obligé. Oui, les temps sont durs. Chers frères et sœurs en Christ, mais rappelons-nous de Josué et de Caleb face aux géants cananites. Ce qui est étonnant dans cette histoire de Joseph et Caleb, quand ils étaient devant la porte de la terre promise, la majorité, dès qu'ils ont vu la taille de ces géants, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il faut éviter le combat, il faut retourner en Égypte. Dieu ne nous appelle pas à éviter le combat. Dieu nous appelle même à retrousser nos manches, à être prêts pour le combat final. Or, les deux, Joseph et Caleb, avant même que le combat ne commence, quelle était leur réaction? En voyant la qualité des terres qu'ils ont vues de leurs propres yeux, ils avaient une autre façon de voir les choses. Ils ont dit: l'Éternel nous a déjà livré le pays. Vous entendez cette phrase? Ils n'ont même pas encore commencé le combat. L'adversaire est si grand, l'adversaire est de taille. Ils ne font pas le poids, physiquement parlant, mais ils ont dit: l'Éternel nous a déjà livré le pays. Alors vous allez peut-être me dire: comment osent-ils dire cela? Seraient-ils prétentieux, Josué et Caleb? Ou sont-ils devenus fous à cause du désert? Non, certainement pas. Pourquoi ils osent dire cela? Parce qu'ils se rappellent de la promesse que Dieu avait faite. Ils hériteront une terre où le lait et le miel couleront. Ils ont gardé cette promesse dans leur cœur et dès qu'ils ont vu la terre promise, ils se sont dit: voilà la promesse que Dieu nous a dit. La promesse va se réaliser. Et alors, dans leur tête, quand ils ont vu la terre, la qualité de la terre promise, ils ne regardaient plus l'ennemi qui était si grand à côté. Mais ils se sont dit: le compte à rebours a commencé, nous allons conquérir cette terre. Même principe, rappelez-vous, avec la prise de Jéricho. Jéricho, qui était bien protégé par une grande muraille, vu la taille, la force de cette ville, personne ne pourrait les abattre. Il serait quasiment impossible d'assiéger Jéricho. Et c'est encore Josué qui disait, il donnait l'ordre aux Lévites: sonnez les trompettes, faites 7 tours autour de la cité, car l'Éternel nous livrera la cité. Quelle foi, chers amis. Ils ne regardaient pas le problème face à eux, mais ils gardaient en tête la promesse. Et le compte à rebours commence à partir du moment où ils ont fait les 7 tours. J'imagine un peu, je me mets à la place des gens, les Lévites, qui disent: il est devenu fou, Josué, ou quoi? Il nous donne l'ordre de faire 7 tours. Il passe un tour, deuxième tour, rien ne il n'y a même pas une brique qui tombe, mais dans la tête de Josué, le compte à rebours est déjà lancé. Et c'est ça la foi. C'est de voir le résultat bien avant. Rappelez-vous, dimanche dernier, nous avons parlé que nous sommes appelés à savoir lire les signes du temps et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pour quelles raisons nous devons le faire, chers amis? C'est parce que ces signes nous donnent le top départ du compte à rebours. Écoutons justement ce que dit Jésus à ce sujet dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 et 28. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous. Au lieu d'avoir peur, il dit « Redressez-vous, levez la tête, parce que votre rédemption approche. » Quelle est votre réaction face à ce chaos que nous vivons aujourd'hui? Avez-vous peur ou avez-vous l'espoir que le Seigneur approche? Celui qui ont mis leur foi en Dieu, ils savent que le compte à rebours est déclenché. Ils savent que leur Seigneur reviendra et il sera là au rendez-vous. Comment vous faire comprendre encore un peu plus l'importance de cette consolation que Dieu nous donne par rapport aux détresses actuelles? Le type de message que je vous adresse, ce n'est pas une prédication qui vous promette que du jour au lendemain, tous vos soucis vont disparaître de façon abracadabrante. Mais j'ai un autre message que je pense encore meilleur que cela. Le Seigneur a une double consolation. On parle de vaccin aujourd'hui. Le Seigneur a une double dose de consolation. Il faut une double dose de consolation pour apaiser les cœurs face à la détresse. Pour tout te faire oublier tes douleurs, le Seigneur a une double consolation. Il ne te promet pas que les choses vont se résoudre tout seul, mais il te donnera une consolation que le monde ne connaît pas. Il y a une très belle métaphore que Jésus lui-même avait utilisée dans les évangiles qui va dans ce sens. Voici cette métaphore. Quand une femme est sur le point de mettre un enfant au monde, elle est dans l'angoisse parce que l'heure de souffrir est arrivée. L'heure de souffrir est arrivée. Donc il y a la panique, la peur, la douleur, tout est là. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ses souffrances. Tellement elle est heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Jean chapitre 16, verset 21. En d'autres termes, ce que Jésus nous dit, la souffrance de la femme qui va accoucher déclenche le processus de la naissance d'un enfant. Cette souffrance est une sorte de prélude de la venue d'une vie. Et c'est ce que nous vivons actuellement. On vit ce qu'on appelle l'accouchement des fins des temps. Il y a une vie qui est en train de venir à nous. La vie éternelle, elle est là, elle est proche. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui vont dans le bon sens même. Il faut avoir la foi pour voir cela. Mais le monde, qu'est-ce qu'il a à te proposer? Va te suicider. Tu vas boire beaucoup d'alcool pour oublier tes malheurs. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de regarder qu'est-ce qui est derrière tout cela. Alors pour terminer ma méditation, la consolation qu'apporte ce texte pour nous aujourd'hui, c'est de nous rassurer que le mal et la détresse que nous vivons aujourd'hui ne sont autres que les messagers de la venue de Dieu. Oui, le mal et la détresse deviennent des messagers de la venue du temps de la consolation qui est proche. Alors le Christ dit, je viens bientôt, sois prêt. Amen.